C'est aujourd'hui que prend fin notre série d'entrevues sur le phare enfants et famille. Et on termine sans beauté avec José Chénard, qui est professeur agrégé au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme. Madame Chénard, qui s'intéresse aux enjeux psychosociaux entourant la maladie grave d'un enfant depuis près de 20 ans. Mais je vais la laisser se présenter. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Chénard.
Oui, bonjour, Madame Denis.
Merci d'être avec nous.
Parlez-nous, c'est un grand plaisir.
Tant mieux, tant mieux. Parlez-nous donc de votre parcours, justement, votre parcours professionnel, de vos liens avec le phare enfants et famille.
Mais en fait, mes liens avec le phare remontent à déjà près de 20 ans. Au moment où même, avant même la naissance, en fait, la mise en place de la maison André Graton, le phare était un beaucoup plus petit organisme et je participais à des comités, on appelait ça le comité de soins à l'époque. Mais en fait, moi, je suis une ancienne travailleuse sociale où j'ai accompagné pendant quelques années plusieurs familles dont l'enfant était gravement malade et j'étais travailleuse sociale au CHU Sainte-Justine. Donc, on voit là vraiment les liens entre la clientèle de l'hôpital Saint-Justine, ouais, et du phare. Donc, c'est mon expérience professionnelle, en fait, qui m'a amenée vers le phare.
Et vous êtes une chercheuse également.
Oui, tout à fait. En fait, ma pratique professionnelle auprès des familles comme travailleuse sociale m'a amenée à soulever plusieurs questionnements et donc j'ai entrepris des études de doctorat en travail social. Et depuis ce temps, je m'intéresse, comme vous l'avez dit tantôt, là, aux enjeux psychosociaux qui entourent la maladie grave, parce qu'on sait que avoir un enfant qui a une maladie grave, ça soulève toutes sortes d'enjeux, des enjeux financiers, professionnels, d'épuisement. Il y a toutes sortes de choses là, qui arrivent au cours de la vie avec un enfant malade.
Et quel est votre projet de recherche actuel, là, plus précisément, plus concrètement, là?
Ben en fait, j'ai fait quelques projets, dont un en lien particulier avec le phare, qui est un projet sur l'analyse de la façon dont les parents prennent des décisions à propos de leur enfant gravement malade.
Ah oui, ça s'appelle le projet de recherche sur les trajectoires décisionnelles.
Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, dans mon expérience comme intervenante auprès de ces familles-là, je voyais bien qu'il y avait des décisions qui soulevaient des enjeux importants et j'ai regardé un peu dans la littérature scientifique. Puis dans la littérature, on disait souvent, ben, il y a une décision, par exemple la décision pour une chirurgie importante, une décision pour un autre type de chirurgie. Mais en fait, ces familles-là sont exposées à une multitude de décisions moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressée.
Et ce ne sont pas les décisions les plus faciles au monde à prendre?
Non, tout à fait. Tu sais, je vous raconte, par exemple, l'histoire de Jérémy. Au moment où j'ai rencontré ses parents, Jérémy était âgé de 4 ans. Ça faisait à peu près une quinzaine d'années que les parents caressaient le rêve de devenir parents. Ils avaient vécu des traitements en procréation assistée, ça n'avait pas fonctionné. Ils étaient sur le point d'aller chercher un enfant en adoption internationale. Et finalement, la mère se présente à l'urgence parce qu'elle avait des douleurs abdominales importantes. Et à ce moment-là, on leur apprend au couple que madame est enceinte de jumeaux.
Oh.
Donc, ça fait 15 ans qu'on attend ces jumeaux et c'est cet enfant-là. Et là, finalement, on apprend qu'il
y en aura deux.
Très heureux.
Ouais.
Puis il y en aura deux. Et pendant la grossesse, les médecins ont diagnostiqué un syndrome au bébé là, qui était apparemment sans conséquence pour le développement des fœtus. Mais à la naissance, Jérémy a présenté d'importantes difficultés respiratoires qui l'ont maintenu en situation de dépendance au respirateur. Il n'arrivait pas à respirer de lui-même.
Et puis, est-ce que l'autre bébé, lui, était aussi malade ou...
Non, lui, il était en très bonne santé. Là. Okay. Donc, les examens ont révélé là, que Jérémy était atteint de paralysie cérébrale. Mm. Et là, il était toujours dépendant du respirateur. Hein. Il n'arrivait pas à respirer. Donc, les parents ont dû prendre la décision. Est-ce qu'on le débranche du respirateur ou on le maintient encore
en vie?
Oui, c'est ça. Et finalement, ils ont pris la décision de le sevrer du ventilateur, hein, de le débrancher de la machine. Mais contre toute attente, Jérémy s'est mis à respirer lui-même.
Oh! Un autre petit miracle.
Un autre petit miracle, sauf que Jérémy, ça l'a maintenu quand même dans une situation de grande dépendance. À 4 ans, il était encore aux couches, il n'arrivait pas à se déplacer, il était toujours en fauteuil roulant ou alité. Donc, c'est des situations qui sont très, très difficiles et des décisions qui sont difficiles.
Et ça, on parle de
décisions médicales, mais il y a toutes sortes d'autres décisions qui viennent avec ça. Hein.
Mm-hmm. Mais là, je suis curieuse de connaître le destin de Jérémy. Est-ce qu'il est toujours en vie?
Ben, au moment où moi, j'ai rencontré ses parents il y a quelques années, là, il était encore en vie, mais dépendant pour l'ensemble de ses soins, là, de ses activités, de la vie quotidienne, il était dépendant de ses parents.
Okay.
Et il n'allait pas récupérer de ça. Là. Il allait toujours être dépendant de l'adulte là, pour ses soins. Donc, mais outre ça, c'est sûr, c'est des grandes décisions difficiles, importantes, c'est complexe et ça met les parents parfois en situation de dilemme important et d'enjeux éthiques même.
Mais les retombées de votre projet pour les parents du phare enfants et famille, quelles sont-elles? Est-ce que ça, j'imagine que ça les éclaire dans le processus de décisionnel?
Ben, en fait, moi, cette recherche-là, ça m'a permis de comprendre à quoi ils étaient exposés, dans quelle mesure c'était difficile pour eux et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider. Et donc, avec le phare enfants et famille, on a mis en place des ateliers d'aide à la décision. Donc, ce sont des ateliers qui durent 2 jours. Pendant que les parents participent à ces rencontres-là, ben, le phare offre du répit aux parents, donc accueille l'enfant. Et ces ateliers-là visent vraiment à susciter la réflexion des parents pour les amener à prendre conscience de toutes les décisions qu'ils prennent, puis comment ils prennent, sur quelle base ils prennent ces décisions-là. L'objectif aussi, c'est d'identifier les facteurs qui influencent leurs décisions pour les amener à prendre des décisions qui soient le plus éclairées, libres et éclairées possibles.
Mm-hmm. Donc, donnez-nous un exemple. De ce qui se passe dans ce genre d'atelier-là d'aide à la décision. Là. Est-ce que il y a des discussions? Est-ce que les gens doivent faire des exercices, des simulations? Je ne sais pas.
En fait, la façon dont on regroupe, généralement, il y a à peu près 8-10 parents qui participent, des fois des couples, des fois des mères, des fois des pères. Et on a organisé les ateliers autour de certaines thématiques. Une thématique étant la trajectoire, par exemple. Donc, on a une activité autour d'une flèche où là, les parents doivent identifier chacune des décisions. Ensuite, on a une autre activité où on prend une de ces décisions-là, par exemple, puis on regarde qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et si c'était à refaire, est-ce qu'on prendrait la même décision? Mm-hmm. On se laisserait influencer par les mêmes facteurs. Et souvent, la recherche dont je vous ai parlé tantôt, on voit que avec le temps, avec l'expérience, les parents ne prennent pas les mêmes décisions.
Ah non.
Fait que c'est intéressant de faire cette réflexion-là, non? Parce qu'au départ, ils arrivent dans un milieu avec un enfant, on n'attendait pas un enfant malade. Donc, tout le langage, les termes, ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Ouais. Hein? Ils sont sur le choc aussi. Donc, il y a toute une tempête émotive qui se passe. Donc, c'est difficile dans ces contextes-là de prendre des décisions.
Eh oui, ils ne sont pas dans le rationnel du tout, là.
Non, pas du tout. Donc, souvent, au début, ils s'en remettent aux médecins. Hein. C'est les médecins qui vont prendre la décision. Et plus le temps passe, plus les parents se veulent être un acteur de la décision, donc participer à la décision. Et les ateliers, ben, leur permettent aussi de voir d'autres parents puis de dire, « Ah, oh, toi, tu as pris cette décision-là. » Puis, « Ah oh, oui, hein. » Ah oh ben, moi j'y ai pensé, mais j'osais pas.
Oui, ça peut être très aidant, très éclairant.
Oui.
Et en terminant, Mme Chénard, si on veut avoir plus d'informations sur votre recherche là, qui concerne les trajectoires décisionnelles, est-ce que c'est possible? Restez avec nous parce qu'il nous reste 10 secondes. J'ai posé la question et j'espère avoir la réponse si vous voulez rester avec nous.
Oui.
Dans 2 minutes, on se retrouve.
Vous écoutez Au quotidien. Avec Hélène Denis.
Et Josée Chénard, qui est professeure agrégée au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme, qui fait de la recherche et qui nous parlait justement de sa recherche sur les trajectoires décisionnelles qui aident les parents à mieux cheminer à travers donc toutes les décisions qu'ils ont à prendre lorsqu'ils ont un enfant malade. Madame Chénard, merci d'avoir accepté de poursuivre avec nous. Alors justement, je vous posais la question, si on veut prendre connaissance de votre recherche sur les trajectoires décisionnelles, est-ce que le commun des mortels y a accès?
Oui, c'est assez. Je pense que c'est disponible là, en tapant en googlant là, sur Internet. Il me semble que c'est disponible, mais autrement, les gens peuvent me contacter là, par courriel.
D'accord.
À josée.chenard, C-H-E-N-A-R-D, à @duco.ca. Autrement.
On a perdu la dernière partie, c'est josée.chenard?
Oui, @uqo.ca.
UQO pour Université du Québec en Outaouais.
Oui, tout à fait.
Parfait.
Autrement, on a aussi mis à la disposition des parents un outil qu'on appelle un outil d'aide à la décision. On a obtenu un financement du ministère de l'Éducation pour faire ce projet-là. Et l'outil est disponible là, pour les parents qui voudraient le consulter. Peut-être je vous remettrai en contact, je mettrai les gens en contact avec Marion Auneau, qui est la travailleuse sociale au Phare Enfants et Familles.
Bien, ça me ferait bien plaisir.
Ben oui, que les gens peuvent joindre au 514-787-8818.
8818. Elle s'appelle Marion?
Auneau.
Auneau.
O-N-N-O.
Bien, merci pour toutes ces informations. Et les ateliers d'aide à la décision, est-ce qu'il y en a plusieurs qui sont donnés au Phare Enfants et Familles?
En fait, on les offre une fois par année, généralement au printemps. Là, c'est évident, avec la COVID, là, on n'a pas pu faire cet exercice-là.
Non, même pas par la plateforme Zoom ou...
Non, cette année, le Phare était tellement débordé avec toute la situation de la COVID
on
que
comprend.
Ça n'a pas été une possibilité, mais au printemps 2022, ça va être de retour certainement.
Bon, tant mieux. Et quelle conclusion vous tirez de vos recherches, de vos rencontres avec les parents d'un enfant malade, Mme Chénard?
En fait, une des principales conclusions, il y a un manque évident de ressources. Hein. Les ressources, puis là, on peut parler de ressources d'organismes, on peut parler aussi de ressources financières. Hein.
Ouais.
Et les recherches que j'ai faites ont montré que plusieurs parents sont obligés de créer des fondations pour pouvoir répondre à leurs besoins, aux besoins de leurs enfants, par exemple du répit à domicile ou du répit dans des organismes ou payer de l'équipement ou des médicaments qui sont non couverts par la RAMQ, payer des gardiennes. Donc, les gens, moi, je suis toujours un peu surprise de constater que dans un pays comme le nôtre, les parents sont obligés de créer des fondations. Hein. Ça leur ajoute un stress supplémentaire. Là.
Oui, et c'est pas tout le monde non plus qui a le temps de créer une fondation, puis c'est pas tout le monde non plus qui est doué pour créer une fondation.
Tout à fait. Donc, il y a beaucoup un manque de ressources évident à ce niveau-là. Je vous dirais aussi la lourdeur des démarches administratives pour obtenir des services. C'est pas facile. Souvent, même les formulaires qu'on utilise au CLSC, par exemple, sont adaptés pour des personnes adultes en perte d'autonomie ou des aînés. Mais il n'y a rien qui est adapté pour les enfants. Donc, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
Parce qu'on entend aussi du côté des aînés qu'il y a une lourdeur dans tous les formulaires à remplir. Alors, c'est lourd pour les enfants, pour tout le monde. Là. Il y a un ménage, un dégraissage bureaucratique à faire. Mais il me semble que ça fait longtemps qu'on le dit.
Oui, effectivement. Je dirais aussi, quand on pense, il faut créer des ressources. Il va falloir, on pense juste à la transition, hein, ces enfants-là, à propos desquels moi je fais des travaux de recherche. Il y a quelques années, il y a 20 ans, ils ne survivaient pas. Donc, avec le déploiement, le déploiement des technologies en santé, les innovations au niveau des médicaments, ces enfants-là vivent de plus en plus longtemps et un certain nombre transitent même à l'âge adulte. Mais là, à l'âge adulte, ça pose d'autres défis.
Ouais.
Puis les parents se posent des questions aussi. Quand je ne serai plus là, parce que les parents sont vieillissants, évidemment, quand je ne serai plus là, qui va s'occuper de mon enfant?
Ça fait partie des inquiétudes et des questions que se posent les parents,
oui. Oui.
Ouais.
Donc, tous les enjeux entourant la transition, donc il y a plusieurs enjeux. Donc, il y a plusieurs travaux à mener pour développer les connaissances et même adapter aussi nos pratiques d'intervention, d'accompagnement auprès
Donc, beaucoup de pain sur votre planche à vous aussi.
Oui.
Ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à cette série de chroniques sur le phare enfant-famille José Chénard. Passez une belle journée. Je vous souhaite aussi un bel été, puis on va peut-être se reparler un jour.
Ça me fera plaisir. Merci beaucoup.
Au plaisir.